Bonjour tout le monde, ici Julie Landry. Bienvenue à la première chaîne de Trottoir, une émission tout à fait spéciale produite littéralement dans la rue par des employés de Radio-Canada en lockout.
Ici Philippe Bourbeau en compagnie de Julie Landry, justement. Nous sommes des animateurs, des réalisateurs, techniciens et journalistes privés de travail par notre employeur. On essaie avec cette émission de partager avec vous ce qui nous arrive.
Ça fait du bien, Philippe, d'être avec un micro. Merci beaucoup à toutes les radios qui diffusent cette émission spéciale de la première chaîne de Trottoir. Vous pouvez nous entendre à Vancouver sur CITR, la radio de l'Université de Colombie-Britannique au 101,9 FM, CJSF, la radio de l'Université Simon Fraser au 90,1 FM et CFRO, la Coop Radio au 102,7 FM. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Internet. Tous les renseignements sont sur notre site Internet www.cmgvancouver.org.
Au menu de cette émission, de la musique avec des artistes francophones de Vancouver qui sont venus nous soutenir. Les profils d'artisans de la radio et de la télévision de Radio-Canada à Vancouver. Les commentaires de nos collègues de la CBC. Également, on pourra entendre des réactions de la communauté francophone de Vancouver au fait que nous soyons en lockout. Et tout de suite, je cède la parole à Pascal Brignel qui se trouve en présence d'un des responsables de notre syndicat, vice-président national de notre syndicat, la Guilde des médias.
Merci Philippe. Alors, plus de 5000 journalistes, réalisateurs, techniciens et autres employés de Radio-Canada et de CBC font du piquetage autour des édifices de la société plutôt que de produire des émissions de radio et de télévision. En effet, après 15 mois de négociations infructueuses, CBC Radio-Canada a décrété un lockout il y a une dizaine de jours. Le conflit touche les employés de Radio-Canada et de CBC partout au Canada, sauf au Québec et à Moncton, parce que les travailleurs là-bas sont représentés par d'autres syndicats. Pour parler du conflit, je reçois Pierre Claveau. Il est président de la Guilde canadienne des médias à Vancouver et membre de l'équipe de négociation. Bonjour Pierre Claveau.
Bonjour Pascal.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Après 15 mois de négociations, durcissement des positions, de la part, surtout, je pense, des dirigeants patronaux, nous avons vraiment essayé au cours des derniers mois de la négociation de donner le maximum possible de lest. Les articles principaux qui sont en litige présentement et qui étaient en litige au moment de la rupture sont les articles, entre autres, sur la réduction de la main-d'œuvre et aussi sur le statut d'employé. Particulièrement sur le statut d'employé, Radio-Canada veut avoir le droit unilatéral d'embaucher autant d'employés contractuels et temporaires qu'il le veut. Et nulle part dans cet article-là, il est question d'embauche d'employés permanents. Pour la Guilde, c'est ça le problème. Radio-Canada allègue, le patronat allègue que c'est pour lui donner la flexibilité dont il a besoin.
Mais ça, est-ce que ce n'est pas une tendance du marché du travail qui touche Radio-Canada comme le reste des entreprises?
C'est une tendance qui était très populaire il y a quelques années et qui maintenant est complètement renversée dans la plupart des grandes entreprises. On se rend compte particulièrement de des entreprises de médias comme entre autres la BBC. On se rend compte que c'est pratiquement impossible d'avoir une main-d'œuvre qui transporte un mandat, d'avoir une main-d'œuvre qui, par exemple, dans le domaine du journalisme, est une main-d'œuvre qui est capable d'avoir une indépendance éditoriale, alors que c'est une main-d'œuvre temporaire. C'est pratiquement pas possible. Alors,
par contre, la durée de vie des émissions n'est plus la même qu'à l'époque. Maintenant, on se renouvelle beaucoup plus rapidement.
C'est vrai qu'on se renouvelle plus rapidement, mais d'autre part, au fil de ce renouvellement-là, on acquiert une expérience et c'est là où c'est important pour les réalisateurs, pour les annonceurs. C'est évident que dans certains domaines, c'est normal qu'une société d'État aille chercher des talents spécifiques. Le contrat qu'on a proposé à Radio-Canada permet cette embauche-là. La Guilde n'est pas totalement obtuse. On se rend compte et on connaît la situation de l'industrie. On a donné à Radio-Canada, dans les articles qu'on a proposés, la possibilité d'aller chercher du monde comme ça, mais pas nauséam, pas à tous les niveaux, à tous les azimuts. C'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas que Radio-Canada mette fin à l'embauche de permanents et n'aille que vers l'embauche contractuelle.
Mais concrètement, si Radio-Canada obtenait ce qu'elle veut, combien de ses employés seraient contractuels plutôt que permanents, là, on parle? Combien de gens seraient touchés au cours, par exemple, de la durée du prochain contrat de travail?
Bien, il faut bien comprendre d'abord que ce n'est pas pour la durée du prochain contrat de travail. Une attitude comme celle-là, une position comme celle-là ne peut pas arrêter. Si Radio-Canada va dans cette direction-là, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est une nouvelle façon de gérer cette industrie-là. On ne peut pas commencer à faire cette érosion-là et l'arrêter à un moment donné. Ça ne peut pas fonctionner. La direction de Radio-Canada parle de 200-220 employés.
Nous, sur un total de?
Ben, pour l'instant, on est 5500. Si on a 70 % de cette main-d'œuvre-là qui est permanente, 5 % de la main-d'œuvre présentement est une main-d'œuvre qui est à contrat comme tel, des contrats à court terme, début-fin, et un autre 25 % est une main-d'œuvre surnuméraire, temporaire, etc. Il en embaucherait peut-être encore 200. Et c'est là où on trouve que c'est un peu original comme proposition, parce que est-ce que vous avez vraiment l'impression que Radio-Canada aurait été dans des extrêmes comme ceux qu'on est en train de vivre maintenant, le lacard de ses 5500 employés, compromettre les cotes d'écoute qui sont absolument les plus fortes que Radio-Canada a jamais eues en anglais à Toronto, simplement pour embaucher 200 personnes? C'est absolument pas de bon sens. C'est un principe qu'ils veulent adopter, c'est une nouvelle philosophie qu'ils veulent adopter.
Mais là, pour le moment, il y a plus de 5000 employés de Radio-Canada qui sont sur le trottoir, oui, qui touchent des allocations de grève de quelques centaines de dollars par semaine. Mm-hmm. Combien de temps ça peut durer?
Oh, écoutez, si vous amenez la notion financière, on ne parle pas de ça, là. C'est évident que pour
des... On ne parle pas de ça, mais c'est très concret. Il y a des gens qui sont aux prises avec ça.
Ben, il y a des gens qui sont aux prises avec ça en termes de fonds de grève. La Guilde canadienne des médias est parfaitement capable de tenir ça pendant très longtemps. Comment les employés, les journalistes, les réalisateurs, les techniciens vont survivre à un conflit comme celui-là, c'est pareil comme n'importe quel conflit. C'est évident qu'on ne veut pas que ça s'éternise pour le bien-être de nos membres, mais surtout aussi pour le bien-être de Radio-Canada. Radio-Canada est en train au risque de disparaître. À long terme, si on perd les cotes d'écoute, c'est pas une entreprise de bouchons qui va pouvoir recommencer à fabriquer ses bouchons quand c'est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les téléspectateurs, les auditeurs apprécient certainement pas la situation actuelle. Alors, on fait tout en ce moment-ci pour faire reprendre la négociation et pour mettre fin à ce conflit-là.
Qu'est-ce qu'on fait justement concrètement pour que les pourparlers reprennent?
La seule façon, je pense, qu'on peut faire repartir ces pourparlers-là, c'est d'avoir une pression politique. La direction, jusqu'à maintenant, s'est entêtée à dire qu'elle ne voulait reprendre la négociation qu'à la condition que la Guilde signe et accepte son principe d'embauche de contractuels. Ce qu'on refuse, ce qu'on veut, c'est que Radio-Canada négocie cet article-là, c'est-à-dire donne un peu de lest, elle aussi.
Mais négocier, c'est mettre de l'eau dans son vin. Jusqu'où êtes-vous prêt à mettre de l'eau dans votre vin?
Comme je vous l'ai dit, on a mis déjà pas mal, même, on se demande même jusque dans quelle mesure on n'a pas mis beaucoup. On veut que Radio-Canada en donne aussi, parce qu'autrement, ça n'a pas de bon sens. Alors, la seule façon jusqu'à présent d'après ce qu'on peut voir en termes stratégiques, simplement, la seule façon qu'on peut voir pour faire reprendre cette négociation-là, c'est d'avoir une intervention extérieure, d'avoir une intervention politique. On demande la nomination d'un médiateur spécial, parce qu'avec un médiateur qui viendrait de l'extérieur, qui aurait un profil suffisamment important pour être reconnu par les deux parties, on est certain qu'une troisième partie qui arrive là-dedans, qui regarde le dossier, va se rendre compte que finalement, la position de la Guilde n'est pas du tout malhonnête. Au contraire, la position de la Guilde, je pense, est très favorable à Radio-Canada et pourrait trouver un terrain d'entente assez facile, je pense, pour faire reprendre cette négociation-là.
Vous êtes-vous fixé une date?
Ben, écoutez, c'est pas possible de se fixer une date. On se fie sur une intervention extérieure. Alors, évidemment, on espère que le public va être là. On espère que les politiciens sont là. On espère qu'ils aiment et qu'ils tiennent à Radio-Canada, eux autres aussi. Faut pas oublier que Radio-Canada, ça appartient au public canadien. Là. Ça appartient pas à Rabinovitch, ça appartient pas à Strasbourg, ça appartient pas à une poignée de membres de la direction. Il faut que le public canadien intervienne. En termes de date, mon Dieu, le plus rapidement sera le mieux, c'est tout ce que je peux vous dire.
Pierre Claveau de la Guilde canadienne des médias, merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup à Pascal Brignel qui interrogeait Pierre Claveau.
Maintenant, sur la première chaîne de Trottoir, on va écouter de la musique. Des artistes vancouverois qu'on connaît bien et qui sont venus nous soutenir. On va tout de suite retrouver Lynn Barnabé.
Merci Philippe et Julie. Quand on pense à la radio, on pense bien sûr à l'actualité, aux nouvelles, mais il y a aussi la musique qui joue un rôle primordial. Et on a le plaisir aujourd'hui de vous offrir un premier concert sur le trottoir. Enfin, on se retrouve littéralement sur le trottoir, sur la rue Hamilton, et l'ambiance aujourd'hui ici est vraiment incroyable. Il y a 6 artistes qui ont accepté notre invitation pour ce premier concert, des musiciens qui viennent ici pour soutenir les membres de la Guilde des médias canadiens en lock-out. Alors, on débute ce concert avec 2 grands artistes. En fait, ce sont les musiciens du groupe Safa. À la clarinette, François Houle, qui est un musicien de réputation internationale. Vous avez pu l'entendre tout récemment au Festival de jazz de Vancouver. Il fait également partie du groupe Standing Wave et du Vancouver New Music Ensemble. Et il est accompagné aujourd'hui au tar par Amir Kouchkani, qui lui est un spécialiste de cet instrument de musique perse. Alors, ensemble aujourd'hui, ils vont nous interpréter une de leurs pièces, Whisper of Love. Alors, accueillons chaleureusement François Houle et Amir Kouchkani.
Juste avant de commencer, je veux dire qu'après 25 ans de carrière, c'est intéressant de se retrouver sur le trottoir encore. Je voudrais juste vous souhaiter à tous bonne chance, des bonnes négociations pour qu'on puisse se retrouver au travail très bientôt, parce qu'on a un concert, nous autres, en octobre. On veut vraiment le faire. On y tient beaucoup avec l'orchestre de Radio-Canada. Alors, on espère que ça va bien marcher pour tout le monde, puis bonne chance.
Thank you. چه کنم که بس پایم به کجا چنین شتابا به هر آن کجا که باشم va chavir Isolo mati gozashi
C'était François Houl et Amir Kouchkani du groupe Safa à la première chaîne de trottoir.
Hello, I am Paolo Pietropaolo, music producer for CBC Radio, and you're listening to La Première Chaîne de Trottoir, a special show produced by Locked Out Radio-Canada employees. Le lockout, pour moi, j'essaie de créer une expérience intéressante. Et au lieu d'être amer, j'ai rencontré des personnes très intéressantes, anglais ou français, et je trouve que c'est une opportunité de faire des liens avec des autres gens très intéressantes. Et pour ça, je trouve, d'avoir cette attitude au lieu d'être fâché ou frustré, parce que c'est très facile, je trouve, à être fâché ou frustré, spécialement après 4 heures de marcher autour de l'édifice. Je pense que le lockout, c'est tellement stupide que j'espère que ça finisse plutôt que possible. Et je crois que les managers, vraiment, ils doivent examiner la situation et ils doivent trouver une solution. Je crois que vraiment ils sont dans l'erreur cette fois. Et nous, je trouve que tout le monde veut travailler. Mais pendant le conflit, c'est mieux avoir une attitude positive et de parler avec tout le monde et de créer des nouveaux amitiés.
Je m'appelle Sénax Bouchard, je suis journaliste à la télé, à RDI, aussi ici à la salle de Radio-Canada, en Colombie-Britannique, et aussi par procuration, si on veut, le correspondant du téléjournal. Je suis ici depuis 3 ans, à Vancouver, et puis depuis 2 ans maintenant à RDI. Moi, j'ai commencé en télé au Québec. J'ai commencé à TVA, après ça, je suis allé à TQS, et je me suis retrouvé à Cogeco. À l'époque, aller jusqu'à il y a 2 ans, les salles régionales au Québec de Radio-Canada étaient desservies par des employés de Cogeco. C'est-à-dire que les reportages qu'on faisait allaient et à TQS et à Radio-Canada chaque soir. À la suite de ça, je me suis rendu travailler 6 mois à TQS à Québec. Moi, ce qui m'a fait revenir à Radio-Canada, c'est RDI. Moi, j'aime l'information instantanée. C'est pour ça que j'ai choisi de faire de la télé, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est le média... Je sais que la radio est plus rapide que la télé, mais je trouve que c'est la télé qui est le média qui est le plus le média de crise, étant donné qu'avec l'image, c'est ce qui permet d'être là quand ça cogne, puis d'être là quand ça se passe. On a vu des exemples de ça. Donc, c'est ce qui m'a attiré à Radio-Canada, le fait qu'on ait autant d'équipements, qu'on puisse aller en direct, puis aussi le fait que Radio-Canada allait me permettre éventuellement de me déplacer dans le pays, puis à l'international aussi. Moi, c'était ça le but de devenir journaliste, c'était de voir des événements, de voir des choses, de rencontrer des gens. Puis je savais que c'était Radio-Canada qui allait, à ce moment-là, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait Radio-Canada qui allait me permettre de vivre tout ça.
Merci Sandrix Bouchard. Vous venez d'entendre un de nos collègues de RDI à la télévision de Radio-Canada à Vancouver.
On vous rappelle que vous écoutez La Première Chaîne de Trottoir, une émission spéciale produite par les employés de Radio-Canada en lockout.
Nous avons la chance d'être diffusés par d'autres radios. Vous pouvez nous écouter à Vancouver sur CITR au 101,9 FM, CJSF au 90,1 FM et CFRO au 102,7 FM. Vous pouvez également nous écouter sur Internet via notre site web, www.cmgvancouver.org.
Maintenant, Philippe, je suis allée voir des gens de la francophonie pour leur parler de la situation et j'ai parlé entre autres avec Craig Olshoo, qui est directeur artistique et général de la compagnie du théâtre La 16e à Vancouver. Il nous parle des effets du lockout sur la saison de La 16e.
Le lockout à Radio-Canada nous affecte certainement d'un point de vue de publicité. On a souvent la chance de rejoindre les gens via Radio-Canada avec les différentes émissions. C'est certain qu'à chaque fois qu'on fait un sondage pour voir c'est quoi la meilleure façon de rejoindre notre public, on nous dit toujours la meilleure façon, c'est Radio-Canada. Donc, on a certainement des grandes inquiétudes avec la première production qui s'en vient au mois de novembre et aussi le relancement de notre saison d'abonnement qui se fait au mois de septembre. Et habituellement, on a toute l'appui qu'on a besoin de Radio-Canada. Et cette année, avec la rentrée théâtrale qui se passe dans les prochaines semaines, on ne sait pas si on va être en mesure de pouvoir publiciser notre saison à nouveau et faire certain que les gens sont au courant de les pièces qu'on veut présenter pendant cette saison.
Merci, Craig Olshoo. Justement, Philippe, la publicité, on peut la refaire tout de suite. Le prochain spectacle présenté par le Théâtre La 16e à Vancouver s'appelle « Visite à Monsieur Green » et c'est avec l'excellent Albert Miller. Ce sera présenté du 9 au 12 novembre.
De retour maintenant avec Lynn Barnabé qui nous présente un nouvel artiste, un chanteur cette fois.
Eh bien, aujourd'hui, nous vous présentons le premier concert sur le trottoir. C'est un concert qui regroupe des artistes qui ont bien voulu soutenir les employés en lockout de Radio-Canada. J'ai donc le plaisir de vous présenter un artiste qui a du coffre. Il s'agit de Tony Lancaster. C'est un contre-ténor. D'ailleurs, vous allez peut-être reconnaître sa voix puisqu'il est également réceptionniste à Radio-Canada. En fait, je devrais dire était réceptionniste à Radio-Canada car, bien sûr, il est en lockout. Mais en parallèle, il travaille en tant que contre-ténor sur toutes sortes de projets personnels. D'ailleurs, vous pourrez l'entendre le 15 octobre prochain à l'église West Point Grey United de Vancouver où il présentera son second récital. Donc aujourd'hui, Tony Lancaster nous interprète un extrait de l'opéra Le pêcheur de perles de Bizet, un extrait intitulé « Je crois entendre encore ». Voici Tony Lancaster.
Je tiens à souligner que ça fait qu'un an que je chante. J'ai jamais chanté de ma vie. Et c'est un talent que j'ai découvert il y a un an et demi. Alors, je commence ma deuxième année à l'Académie de musique en septembre.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme chant de soir.
Vous venez d'entendre Tony Lancaster qui nous interprétait un air de Bizet. À vous, Philippe.
Merci, Lynn. On vous retrouve plus tard dans cette émission de la première chaîne de trottoir. Également à venir dans quelques minutes des entrevues réalisées avec certains de nos collègues sur la ligne de piquetage. On vous fera aussi entendre une chanson réalisée par nos collègues de Montréal lors de leur dernier lockout, ainsi qu'une entrevue avec Marie Bourgeois de la Maison de la Francophonie.
Mais tout de suite, on revient sur le trottoir pour une entrevue avec une journaliste de la radio de Radio-Canada à Vancouver, Marie-Laine Tétu. Comme beaucoup d'autres, elle a un statut précaire, elle est pigiste, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas à l'avance où et quand elle va travailler. Elle fait partie de ce qu'on appelle à Radio-Canada les relèves. Et la voilà tout de suite au micro de Francine Marchand.
Je suis venue d'abord à Vancouver pour y vivre. J'avais travaillé à Radio-Canada à Montréal. Alors, j'ai commencé à travailler ici au mois de janvier, un contrat de 3 semaines de remplacement, pour lequel j'ai eu un beau 2 jours de formation, et c'était pour la lecture du bulletin de nouvelles, ce que je n'avais jamais fait. Pour les 3 semaines, et après 3 jours, on m'a dit, écoute, ça va bien, tu te débrouilles bien, on est intéressé. Est-ce que tu peux rester pour 3 mois, alors? Parce que je vivais aux États-Unis. J'ai resté 3 mois. À la fin du contrat, quelques semaines avant que mon contrat soit fini, puisque je suis contractuelle, on m'a dit, ben OK, on va te prolonger. Oui, oui, ça va, ça fonctionne bien, alors on va te donner un autre 3 mois. Alors, c'était vraiment... des contrats surprises, en fait, parce qu'on ne sait jamais si après le 3 mois, ce qui va se produire. Heureusement, je suis syndiquée, alors j'ai le droit quand même à l'appui du syndicat s'il y a un problème. Ils ne peuvent pas non plus me dire, bon, tu ne fais pas l'affaire, au revoir, sans me donner de raison. Mais je n'ai pas d'assurance médicaments, pas d'assurance médicale, je n'ai pas le droit au dentiste. On a un peu plus de salaire, on a un 12,5% d'avantage, mais quand on sait le prix que ça coûte pour un dentiste... Pour ce qui est de la planification, là, c'est impossible, impossible. En fait, j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui a un autre salaire qui rentre à la maison, mais sinon, bon, ça serait vraiment mois par mois, il faudrait que je prenne des contacts ailleurs pour travailler soit dans un autre domaine ou travailler dans un autre endroit, parce que si pendant 2 semaines, je n'ai pas de coup de fil pour travailler, je n'ai pas de boulot, mais il faut quand même que je paye mon loyer, la nourriture. Alors non, c'est vraiment pigiste. C'est ce qu'on appelle le beau titre qu'on donne, c'est relève. Ça paraît bien, relève malgré l'âge, mais c'est vraiment des contrats surprises.
Marie-Laine, pourquoi à Radio-Canada? Est-ce que vous pourriez, par exemple, par choix, travailler ailleurs? Autrement dit, pourquoi à Radio-Canada?
Pour mon respect, pour le travail que les gens font à Radio-Canada, en fait, c'est beaucoup avec les collègues de travail, le travail d'équipe qui se fait à Radio-Canada, les artisans de Radio-Canada que j'ai adoré dès les premiers jours où j'y ai travaillé. C'est le contenu que les gens font, l'investissement qu'ils font, la passion des gens qui y travaillent, qui ont développé la même passion en moi. Alors, j'adore mon travail, j'adore les gens avec qui je travaille. C'est un peu moins évident quand on est en conflit de travail, mais on le voit sur la ligne de piquetage. Les gens parlent, sont contents de se voir, on partage des cuisines, les lectures. C'est un milieu de travail tellement stimulant, Radio-Canada, puis je pense que c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, qui ont un souci de qualité, puis moi, je voulais faire partie de cette équipe-là.
C'était Marie-Laine Tétu, une des journalistes de Radio-Canada à Vancouver. Et maintenant, voici une des journalistes bien connues de la télévision à CBC Vancouver.
Hello, I'm Nathalie Clancy, a national television reporter with CBC Television, and you are listening to La Première Chaîne de Trottoir, a special show by Locked Out Radio-Canada employees.
C'est difficile pour moi parce que je reste ici dans la rue. Je suis journaliste, puis je n'ai pas la permission d'aller dans la salle de nouvelles. Je veux faire les reportages. J'aimerais beaucoup mes travail. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de travail à faire. Mais beaucoup de Canadiens vont avoir de garder les nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui passent, mais c'est difficile. C'est la première fois dans 14 ans que je n'ai pas la permission d'aller dans la salle de nouvelles. Ça, c'est difficile pour tous mes collègues ici dans la rue. La personne qui a la responsabilité de la Société du Canada, ils ont une autre... idée de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. You know, il y a un autre plan, puis ce n'est pas le mandat de la Société Radio-Canada. Ce n'est pas le mandat de rester ici dans la rue.
C'était Nathalie Clancy. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission spéciale de la première chaîne de trottoir, une émission réalisée dans la rue par des employés de Radio-Canada privés de travail par leur direction.
Journalistes, animateurs, techniciens, on est tous en lockout. Et si vous voulez vous informer sur notre conflit de travail, vous pouvez le faire en visitant notre site Internet www.cmgvancouver.org. Et si vous êtes à Vancouver, vous pouvez aussi passer nous voir, venez nous voir. Nous sommes en train de marcher autour de nos bureaux au coin des rues Hamilton et Georgia à Vancouver. Ici, vous pouvez parler avec nous et aussi signer une pétition pour nous soutenir.
Encore un peu de divertissement dans cette émission spéciale. On retrouve maintenant Lynn Barnabé.
Merci Philippe, merci Julie. Notre prochain invité est Georges Rouget. Georges, c'est un enseignant à l'école Gabriel Roy, mais il est aussi directeur de la chorale pour enfants, Les Chanteurs du Roi. Et aujourd'hui, il va nous interpréter une de ses compositions originales intitulée « Tous ensemble ». Allez, accueillez chaleureusement Georges Rouget.
For our anglophone friends, some of the key words that you'll hear in the francophone text are rassemble, which means come together, entente, which means agreement, and contrat, which you all want. Et je vous comprends, puisqu'en tant qu'enseignant, il se peut qu'on se dirige dans cette direction, dans la même direction. Alors, vous avez notre sympathie. Alors, tous ensemble.
Tous ensemble, on se rassemble, tous ensemble pour une entente. La vie c'est tellement mieux quand on s'y met à deux. Danse, danse, danse pour garder la balance. Pense, 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 vive la différence. Ce n'est pas facile de faire une entente, mais d'autant plus faudrait-il mieux se comprendre. Discussion qu'il faut maintenant reprendre. Et quand ton cœur entendra cette chanson, ton corps voudra. Danse, 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 on va négocier. Tes bras ramènent mes mains, ensemble on fait le point. Et partout on ressent la joie d'un bon contrat. Ensemble, tous ensemble, qu'on se rassemble. Tous ensemble pour une entente. Tous ensemble se rassemble. Tous ensemble pour une entente. Ce n'est pas un tort qu'on ne soit pas d'accord, mais faut quand même pas que tu nous mettes dehors. C'est pas comme ça qu'on achève le contrat. Et quand ton cœur entendra cette chanson, ton corps voudra. Danse, 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 partout on va danser. Tes bras ramènent mes mains, et ensemble on fera le point. Et on ressent la joie d'un bon contrat.
Bring your hands together.
Radio-Canada, y en a pas deux comme toi. Tu es mon droit, tu es ma voix, et sans toi je serais perdu. Ouvre tes portes et laisse rentrer ce bon monde en onde de SRC. Oh ouais! Tous ensemble, qu'on se rassemble. Tous ensemble pour une entente.
Je voudrais juste te dire longue vie à Radio-Canada, long live CBC. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Georges Rouget nous interpréter « Tous ensemble ». À vous, Philippe.
Merci, Lynn. Vous savez qu'à Radio-Canada, on a des collègues qui viennent de partout dans le monde. On a essayé de savoir comment ils vivaient notre conflit de travail. Voilà maintenant Stéphane Gasque, originaire de la France et journaliste à la radio, ici.
Commencez d'abord par dire que le lockout pour un Français de France, c'est surprenant. La première fois, on ne comprend pas. Et puis même, moi j'en ai vécu un il y a quelques années au Québec, le dernier. Je n'ai toujours pas vraiment compris ce que c'était qu'un lockout. Il n'y en a pas dans la culture française et je pense pas européenne. Ça a l'air d'être une spécialité nord-américaine, que le patron foute les employés dehors. Donc je ne sais pas trop bien ce que c'est, mais je comprends que ça donne la main au patron, qui décide lui quand on reprend les négociations, quand on laisse rentrer les employés. C'est un petit pouvoir en plus que les patrons n'ont pas en France et en Europe, où ils subissent plus la grève, donc les syndicats et les employés quand ils sont syndiqués. ont un peu plus de pouvoir. C'est eux qui décident quand ils font la grève. Oui, je reviens un petit peu ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années. J'étais animateur à Radio France dans une radio locale, comme on l'est ici à Vancouver, c'est une radio locale. J'ai été contractuel pendant 7-8 ans en tant qu'animateur. Tous les ans, on re-signait un contrat. On n'était pas à la merci des patrons, on n'était pas à genoux devant eux, mais on était quand même contractuel. Il fallait être plutôt gentil, il fallait ne pas avoir d'augmentation quand ils n'avaient pas envie d'en donner. Ça va bien quand on est jeune, on connaît tous ça, c'est pas la peine de refaire le truc, mais le banquier nous regarde différemment quand on est contractuel ou quand on est permanent, par exemple. C'est plus facile quand on est jeune que quand on a des enfants, une maison, etc., patin coup fin. On s'est mis à lutter, on a fait grève et on a obtenu gain de cause, on a obtenu des permanences. Ça a changé complètement de culture parce que les animateurs, normalement, c'est à cachet, c'est à contrat, c'est des vedettes. Mais quand on parle de radio locale, on parle moins de vedettes, c'est des artisans. Mais ce que j'ai toujours pensé aussi, c'est qu'il peut y avoir des permanences si elles sont bien gérées. Le boulot d'un cadre, en gros, c'est de motiver les gens, de mettre les gens à la bonne place et de savoir les motiver. C'est ça. Sinon, au quotidien, ils n'ont pas grand-chose à faire. Là, j'en profite. Là, je suis en lockout. Je suis un peu remonté contre eux. Mais leur boulot, c'est de nous motiver. Donc, nous donner la permanence, ce n'est pas forcément nous mettre dans un placard. C'est pas forcément un somnifère. Si on choisit la bonne personne, on la met au bon endroit et on la fait se remettre en question de temps en temps, ce qui est le boulot du cadre, on a fait la moitié du travail. Si on a des tirs au flanc qui font rien, ben, on les secoue plus. Une permanence à Radio-Canada, ça n'a jamais été un état de fonctionnaire invirable. Okay, s'il y a des fautes professionnelles répétées, on peut virer quelqu'un. Donc, quelque part, c'est un faux problème. C'est délicat de donner des permanences à tout le monde, mais à CBC Radio-Canada, ça marche plutôt bien. Il y a des bons artisans, ça marche. Donc, c'est pour faire des économies, je pense, tout simplement. Le gouvernement donne moins de sous et les boss sont un peu bénis oui-oui. Ils n'osent pas dire le contraire. Donc, ils cherchent à faire des économies sur les contrats de travail, sur les avantages. Donc cette souplesse liée à l'époque, j'y crois pas trop.
C'était Stéphane Gasque, journaliste à l'émission habituellement La nuit, la vie à Vancouver. Vous savez, moi aussi, j'ai vécu le lockout à Montréal avec Stéphane en 2002 parce que je travaillais à ce moment-là à Moncton. Et là-bas, on avait entendu une chanson assez particulière. Il faut à tout prix qu'on l'écoute. C'est un morceau écrit et composé par un employé de Radio-Canada pendant qu'il était cadenassé. Il s'appelle Bertrand Hall et il est accompagné à la guitare par Jean-Luc Thiévan. C'est une chanson qui pourrait nous aider aussi. Ça s'appelle « Le blues du lockout ».
M'en va vous raconter à cette heure la petite histoire d'un vrai conflit. Pas un coup de tête, un cri du cœur, ça fait longtemps que c'était pourri. On débraye juste pour 24 heures pour se ramasser tous locatés. Faut bien avouer que le premier jour, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas pour. C'est bien beau d'avoir son voyage, y a des homards qui aiment pas les cages. Fallait se parler, on a su le faire, pis là tout le monde est solidaire. J'en connais plus un seul maudit qui sait pas qu'est-ce qu'on fait ici. Gradure, précaire, surnuméraire, on est tous dans la même galère. Allô mon boss, faut te réveiller, c'est assez la précarité. Puis être payé, puis des congés, puis qu'on respecte notre ancienneté. Laisse faire les boss, laisse faire les crosses, on veut juste un peu d'équité, c'est pas si dur à négocier. À force d'arpenter le trottoir, c'est comme se regarder dans le miroir. Non seulement tu découvres les gens, mais tu ressens ce qu'ils ont en dedans. Je sais pas si on sera longtemps dehors, mais une fois rentré, je serai qu'on sera fort. Le petit problème avec le mépris, c'est que ça peut pas toujours durer. C'est pas comme pour les temporaires qui peuvent s'en faire toute une carrière.
Puis le jour où la chute est la fan, on tire la plug, même plus de Stéphane. Paraît que nos boss découvrent soudain que déformer, c'est tout un métier. La langue à terre à cœur d'année, ça en demande pas mal de faire un bulletin. Il reste plus rien qu'à espérer qu'il finisse par nous respecter. Puis nous traiter avec dignité pour être libre de travailler. Laisse faire les menaces et les sarcasmes. Ce qu'on veut nous autres, c'est de signer. C'est pas si dur à expliquer. Ici j'y mépris Canada, un gars, une fille, paye pas pareil. Ici fini de faire rire de soi que CBC est de plus grosse paye. Si vous voulez de la qualité, commencez donc par en donner. Ce qui fait fureur à Radio Cannes, ce sont les burn-out répétés. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'ils comprennent que c'est parce qu'ils savent pas gérer? Tu peux tirer sur l'élastique, étonne-toi pas quand il est pété. Mes chers amis, je vous quitte ici, c'est à mon tour d'aller piqueter. Et je vais vous dire, c'est avec plaisir que je vous vois tous vous entraider. À 1300, c'est pas compliqué, on ne peut pas ne pas gagner. Faut rester debout, pas jouer au fou, mettre ses culottes, puis plus de pinottes. Tends pas la joue, un deuxième coup, peuvent bien nous laisser à la porte, les faits gagnants, c'est déjà nous. C'est déjà nous.
C'était le Blues du Lockout, une chanson réalisée en 2002 par Bertrand Hall de Radio-Canada à Montréal, accompagnée à la guitare par Jean-Luc Thiévent.
Le Lockout de Radio-Canada ne touche pas uniquement ses employés, évidemment. Il y a des énormes conséquences et à Vancouver, il affecte les organismes francophones. J'en ai parlé avec Marie Bourgeois, directrice générale de la Société Maison de la Francophonie à Vancouver.
Le Lockout de Radio-Canada affecte ma famille, m'affecte personnellement, mais affecte aussi toutes les autres personnes qui ont besoin d'informations, des nouvelles, qui veulent savoir ce qui se passe en français, ben, non seulement à Vancouver, mais j'imagine partout dans la province. Mais en ce qui concerne Vancouver, c'est critique parce qu'il n'y a pas énormément d'informations disponibles publiquement en français. Il y a quelques journaux, il y a l'Express du Pacifique, mais l'Express du Pacifique sort aux deux semaines. Alors, si on veut savoir quels sont les dossiers qui touchent les francophones de la Colombie-Britannique, de Vancouver, si on veut savoir quels sont les événements qui s'en viennent, on ne peut pas le savoir. Si la radio n'est pas là, la couverture locale n'est pas là. Intéressant d'entendre la couverture nationale, mais nous, c'est la couverture locale dont on a besoin. On sait que le mois de septembre, c'est non seulement la rentrée scolaire, on n'entendra pas parler. Qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? On sait qu'en Colombie-Britannique, en ce moment, il y a des difficultés entre le syndicat des enseignants et le gouvernement provincial. Quel va être le dénouement de ça et est-ce qu'on va l'entendre parler en français? En Colombie-Britannique, c'est pas certain. On a besoin de le savoir. On ne saura pas aussi qu'est-ce qui se passe dans toutes les associations à Vancouver. On sait que l'automne, le début de l'automne, c'est le début des activités. Alors, c'est quoi les activités? Moi, je vais le savoir parce que je suis dans la Maison de la Francophonie, mais monsieur, madame, tout le monde qui s'attend de recevoir cette information-là, la radio ne l'entendra pas. Et ça, c'est pas correct. On s'est battu il y a des années pour sauver la radio et la télé de Radio-Canada. Moi, je me souviens d'avoir marché dans les rues de Vancouver en portant des drapeaux, là, pour sauver Radio-Canada, sauver le CBC. Je ne vais pas me faire dire maintenant là, que je n'ai pas accès à Radio-Canada et à CBC local. Non, ça, je ne l'accepte pas.
C'était Marie Bourgeois, directrice générale de la Société Maison de la Francophonie à Vancouver.
Maintenant, je voudrais vous parler d'un événement organisé par les employés de Radio-Canada et la CBC. Cela va s'appeler en anglais « Walk of Fame » et en français « Marcher avec nous ». C'est organisé les lundis 29 août autour de l'édifice de Radio-Canada, la CBC, au coin des rues Hamilton et Georgia, à Vancouver. Pour en parler, je suis en compagnie de l'organisatrice du côté francophone, Nicole Lipton. Nicole, bonjour.
Bonjour, Philippe.
Parlez-nous un peu de cet événement de lundi.
Bien, c'est pour attirer l'attention du public sur le conflit de travail qui dure maintenant depuis 2 semaines. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en vacances, qui ne savent pas vraiment qu'il y a 5500 employés de Radio-Canada qui ont été mis en lock-out par la direction. C'est la première fois également qu'il y a des animateurs, des journalistes et des réalisateurs qui sont affectés par ce conflit. Puis aussi, bien, c'est l'occasion pour le public de démontrer l'appui et témoigner leur attachement pour la radio et la télévision publique. C'est particulièrement important pour les auditeurs et téléspectateurs francophones, pour qui Radio-Canada est la seule source d'information régionale et provinciale en français. Puis ça affecte également les artistes et autres groupes culturels qui sont souvent invités régulièrement à nos émissions.
Dites-moi, Nicole, qui sera là lundi?
Bien, pour la radio, il y aura Robert Groux, qui fait normalement l'émission de l'après-midi, Mme Danielle Marcotte, qui est bien connue de nos auditeurs. Vous serez là également, Philippe. Il y a Pierre Claveau qui sera là également, Denis Couture, Francine Marchand, l'animatrice de La Nuit, la Vie, Monique Polony. Ce sera aussi l'occasion pour rencontrer le nouvel animateur du téléjournal de Colombie-Britannique, Pierre-Philippe Bibeau, qui entrera en fonction dès que le conflit de travail sera réglé. Les journalistes, réalisateurs, les caméramans, les monteurs seront là également et aimeraient bien rencontrer le public.
Côté anglais, nous aurons plusieurs personnalités également.
Oui, il y a Rick Clough, la radio anglaise, Bill Richardson. Pour la télé, également Ian Anoman-Singh et Gloria Makarenko. Madame Makarenko qui parle très, très bien français d'ailleurs. Et ce sera, Philippe, l'occasion unique et rare de rencontrer et d'échanger avec les personnalités de Radio-Canada en français et en anglais. Et donc, on vous invite à venir marcher avec nous, amener les enfants. C'est la dernière semaine avant la rentrée scolaire. Et ils pourront prendre des photos, signer des autographes. Et il y aura également des spectacles et des artistes qui seront sur les lieux. Il y a Jim Burns qui sera là. Et pour les francophones, il y a M. Jean Lambert de Maillardville qui sera là pour venir nous appuyer.
Merci beaucoup, Nicole Lipton. J'invite toute la population à venir nous voir, venir marcher avec nous lundi 29 août de 8h à 14h. C'est au 700 de la rue Hamilton, coin Georgia, à Vancouver. Encore une fois, Nicole, merci.
Je vous en prie.
Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur plusieurs radios à Vancouver, CITR au 101,9 FM, CJSF au 90,1 FM et CFRO au 102,7 FM. Et vous pouvez aussi écouter cette émission sur Internet via notre site www.cmgvancouver.org.
Attendez, Philippe et Julie, nous avons un dernier groupe à vous présenter ici aujourd'hui. Il s'agit du groupe Van Django. C'est un groupe de Vancouver qui se spécialise dans la musique manouche. Accueillez Van Django!
Frédéric Tremblay, je suis employé pour Radio-Canada à Vancouver depuis fin 2001. J'ai été technicien radio, producteur radio, assistant réalisateur, animateur radio et collaborateur. Et depuis tout récemment, je suis également journaliste à la télévision. J'ai travaillé pour le privé et pour le public. Radio-Canada, de un, a une réputation de standard, de rigueur, de très bonne qualité. Ce que j'aime de Radio-Canada, c'est qu'on est payé, oui, pour donner un produit de qualité, pour attirer les auditeurs, mais surtout qu'on est payé pour faire de la radio. Je ne suis pas payé pour donner un certain nombre de codes d'écoute de part de marché, pour avoir un certain nombre de publicitaires. Non, on nous paye un salaire pour faire de la radio et pour faire surtout des émissions de qualité. Et c'est ce que j'aime, moi, parce que je ne suis pas un comptable, je ne fais pas de la radio pour faire de l'argent. Si je voulais faire de l'argent, j'aurais fait médecin, j'aurais fait ingénieur. Moi, je fais de la radio parce que j'aime ça. Et à Radio-Canada, on a l'opportunité de travailler dans ce média, que ce soit la télévision ou la radio, faire ce qu'on aime et vraiment le faire avec des bonnes conditions, avec des gens aussi qui sont de qualité, des gens qui sont compétents. Donc, c'est pour toutes ces qualités-là que je travaille pour Radio-Canada.
Bien, Julie, c'est déjà la fin de notre émission spéciale. Ça nous a fait plaisir à tout le monde, je pense.
Et vous, comment vous trouvez être assis sur un abribus au coin de la rue Hamilton et Robson au lieu du fameux Studio 35?
J'ai l'impression qu'on pourrait éventuellement y revenir. Même quand on travaille à Radio-Canada, c'est bien de voir les gens passer, de voir les gens qui nous appuient également, des gens qui klaxonnent quand ils nous voient passer autour de Radio-Canada avec nos pancartes, là.
D'accord, on pourra refaire la même chose quand il fera beau comme aujourd'hui.
Exactement. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont contribué à réaliser cette émission qui a été faite de l'extérieur de Radio-Canada.
Merci à Lynn Barnabé, Cendrix Bouchard, Annie Bourgault, Denis Bouvier,
Pascal Brignel, Tate Clark, Pierre Claveau, Denis Couture,
Nathalie Clancy, Locke Dao, Benoît Ferradini, Annick Forêt,
Nathalie Fraud, Stéphane Gasque, Doug Lane, Nicole Lipton,
Francine Marchand, Barry McAllison, Paolo Pietro Paolo, Alain Poirier,
Bill Richardson, Marie-Hélène Tétu, Frédéric Tremblay, Susanna Valente.
Et un grand merci aux musiciens qui sont venus nous soutenir, François Houle, Amir Kouchkani, Tony Lancaster, Georges Rouget et le groupe Van Django. Et merci Philippe.
Merci Julie, merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui et on se reprendra peut-être la semaine prochaine.
En espérant à l'intérieur de l'édifice de Radio-Canada.